من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طيب، alors on se retrouve une fois de plus, hein, par la grâce d'Allah. D'ailleurs, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, car si on le remercie, comme Allah ta'ala nous le dit dans le Coran, il nous en donnera plus. Et s'il y a bien une chose, et s'il y a bien une chose sur laquelle est mentionné dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'augmentation. Il y a des savants qui disent que c'est la seule chose où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de l'augmenter. C'est bien la science. Lorsqu'Allah Ta'ala dit, donc c'est le prophète A.S. qui demande à Allah, Allahumma zidni ilma. Oh Allah, augmente-moi en science. On comprend à ce moment-là que si une personne court vers la science, l'apprentissage de la science, une personne est augmentée en science, c'est qu'elle est sur le bon chemin et qu'Allah, comme vous le savez, Allah lui veut du bien. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit, lui fait comprendre la religion, comme vous le savez. Ça passe par l'enseignement, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ilm bit-ta'allum. La science, ça passe par l'apprentissage. Également, dans un même temps, parce que, comme vous le savez, Allah Ta'ala, il crée les choses par paires. Ce n'est peut-être pas dans l'absolu, mais il y a un paradis, il y a un enfer. Il y a le bien, il y a le mal pour nous. Hein. Il y a les gentils, il y a les méchants. Il y a le vrai, il y a le faux, etc. Donc il y a la science et il y a l'ignorance. Il y a ceux qu'Allah aime et ceux qu'Allah, à qui il veut du bien, et ceux pour qui Allah Ta'ala ne veut pas forcément ce bien pour eux, c'est-à-dire les augmenter en science. De ce fait, i'lamu yarhamakum Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, wa iyana, ainsi qu'à nous. Que celui qui est mis sur le chemin de la connaissance, alors, cette connaissance, elle est nommée comme le ilm, elle est nommée également, connue sous le nom également de firq, comme ce qu'on apprend aujourd'hui. Tantôt, ça peut être le grand firq, unicité, tawhid, aqida, croyance. Tantôt, ça peut être le petit firq, celui qu'on apprend, par exemple, dans cette matière ici. On avait expliqué que petit, ça ne veut pas dire qu'il est moindre ou non, mais par rapport au tawhid et à la aqida, il est considéré comme fara. Fara, c'est-à-dire comme une branche, un dérivé du tawhid. Car toutes les matières, en réalité, elles dérivent, elles sont des branches du tawhid. La matière la plus importante, la plus noble, c'est le tawhid. Si tu n'as pas le tawhid, c'est pas la peine de faire le reste. Wallahu alam, Si tu n'as pas le tawhid, ce n'est pas la peine de faire le reste. Et on n'a pas le temps de développer cette question ici, mais pour ceux qui veulent un détail, n'hésitez pas à nous consulter. On vous fera un détail sur le fait que si on n'a pas le tawhid, on n'a rien du tout. C'est pas la peine de continuer le reste. C'est pas la peine. Tu te fatigues pour rien. Parce que la première condition d'acceptation, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas concrétisé. À ce propos, on était en train d'expliquer pour arriver à une conclusion, une idée, une petite recommandation. Il faut savoir, c'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça. On n'a pas, on n'est pas dans une situation aujourd'hui où on a la possibilité de courir après les gens, mais c'est aux gens eux-mêmes, vous savez, les grands étudiants, les savants et autres, ceux qui réussissent, réussissent entre parenthèses, hein, on se comprend, on le saura que le jour dernier si on a réussi ou pas. Déjà, quand on va arriver dans la tombe, on saura si on a réussi ou pas. Mais entre parenthèses, les gens qui réussissent, il faut bien vous dire une chose, c'est très important. C'est ceux, on parle de science ici, hein. Ce sont ceux qui savent ce qu'ils veulent. Ils sont déterminés. T'as pas besoin de leur dire, il faut que tu restes. Regarde ce qu'on apprend, c'est bien, c'est super, faut que tu restes. Les vrais gens déterminés, t'as pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Même s'ils se retrouvent tout seuls dans un cours, il sera là. Parce qu'il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il recherche. Il est déterminé, il ou elle, hein. Il a un but. Il a un but. Donc voilà, chacun dans son cœur, on a fait quand même beaucoup de rappels, on a essayé d'éclaircir ces choses-là. Chacun dans son cœur, il doit être conscient de ces choses-là, qu'en réalité, c'est pour toi. Ce bien-là, il est pour toi, il n'est pas pour nous, hein. Alhamdoulilah, nous, on a notre part de bien, bien entendu. Mais le plus, celui qui s'éloigne, c'est lui qui perd tout. En réalité, c'est lui le perdant. Il faut être conscient de ces choses-là. N'attends pas qu'on te concerte, qu'on te dise, mais pourquoi? Il faut rester, il faut ceci, il faut cela. Je dis pas que ça a été le cas, hein, parce que moi, c'est pas mon domaine. Je suis là que pour donner les cours. C'est pas moi qui s'occupe du reste. Mais il faut savoir, il faut être déterminé, il faut savoir ce qu'on veut. Et n'attends pas après les autres qu'ils te motivent pour être dans un contexte que tu as besoin qu'on te... Comment dirais-je? Est-ce que tu as besoin qu'on te fasse la morale pour que tu sois... Fasse partie de ceux qu'Allah il aime, ceux pour qui il veut le bien. Ou est-ce que toi-même, ça te, tu es indifférent dans le fait que bah, si t'es pas dans l'apprentissage d'Allah, dans ta vie d'aujourd'hui, si t'es pas en train d'apprendre la religion d'Allah, c'est qu'Allah il ne te veut pas du bien. Il faut bien que vous le sachiez ça. Concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion, il lui fait comprendre la religion, ça passe donc par l'enseignement. Il faut que vous sachiez qu'également les savants en ont déduit le contraire. Qad stambata al-ulama bil-aks. Les savants en ont déduit le contraire. Ça veut dire celui à qui Allah ou Ta'ala ne veut pas du bien, il ne l'instruit pas dans la religion. Alors normalement, tu n'as même pas besoin qu'on court après toi, c'est toi qui dois courir. Je vous assure, malgré que je remercie Allah ou Ta'ala, on remercie Allah parce qu'on sait que y a des inconvénients dans ce que je vais vous dire. Il y a des inconvénients, mais on sera toujours étonné. On sera toujours étonné. De cette époque aujourd'hui où les gens ne courent pas après la science, ils ont des étudiants à 5 km de chez eux, des fois des étudiants en face de chez eux. C'est comme un cabinet médical qui est vide. Personne vient frapper. Vous savez, je sais pas si ça existe toujours. Le docteur, tu vas, tu sonnes, tu t'assis dans la salle d'attente et t'attends que c'est ton tour. J'ai besoin de ce qu'il représente, j'ai besoin de ce qu'il a comme bagage. Ouais, Lou, rien. Il n'y a rien. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le monde à l'envers. Vous allez me dire, on n'est pas dans le monde à l'envers. C'est pas à l'étudiant, c'est pas au savant d'aller courir. Mais c'est un bien pour toi. Tu veux qu'Allah t'aime, s'il te plaît, viens. Allahu Akbar, jamais je me rabaisserai comme ça. Jamais je rabaisserai la science, les sciences, jamais, pour ma part. Sauf si je vois une personne vraiment en détresse, vraiment, vraiment, vraiment en détresse, bon là, on la conseille, on lui dit, tu sais, c'est un bien pour toi, viens si tu veux. Je vous jure par Allah, aujourd'hui, tu vas voir les gens, ça m'est arrivé, hein. Tu vas voir les gens, tu leur veux du bien. Akhi, est-ce que tu veux des cours? Si tu veux, on peut te donner des cours parce que... Non, non, c'est bon, je prends déjà des cours. Alors toi, c'est pas que t'es un espion ou quoi que ce soit, mais tu vas ce qu'on appelle faire un... Allah, il nous a donné ça avec l'expérience, un petit peu de clairvoyance. Vous savez qu'en tant que prêcheur ou étudiant ou savant, t'es obligé d'être psychologue. C'est obligé. Écouter une personne, voir comment elle répond, juste à regarder une personne. Un savant, vous êtes assis en face de lui, il te regarde, il t'analyse, il connaît ton... Ça y est, il sait comment que t'es. C'est façon de parler. Hein. Alors par la grâce d'Allah, on a un petit peu cette capacité. Donc on va analyser la personne un petit peu, tout ça et tout, et on voit qu'en réalité, quand il nous dit c'est bon, j'étudie déjà, on a constaté que... Il y a deux solutions, ou bien il étudie et il pratique pas, ou bien il n'étudie pas, en réalité il n'étudie pas. Wallah al-musta'an. Donc aujourd'hui, pour vous dire, il y a énormément de gens, ils vont ce qu'on appelle esquiver le bien pour eux. Wallah, c'est adib, hein. Vous savez que moi je suis choqué. Hein. Si certains étudiants commencent à me connaître, ils comprendront pourquoi je ne peux être que choqué. Subhanallah, la science aujourd'hui, elle vient à toi d'une facilité où il y a des gens, ils ont saigné des pieds, ils ont fait des voyages. Il y en a, ils sont morts pendant le voyage. Il y en a, ils disent, j'ai tellement marché, j'ai saigné des pieds pour aller chercher un hadith. Et toi, tu es entre deux. En fait, c'est comme si tu disais, hein, si on peut se permettre, selon les textes, hein, c'est comme si tu disais, attends, je vais réfléchir ou je vais voir si j'ai envie qu'Allah y m'aime ou pas. Je vais réfléchir, attends. Attends, je vais réfléchir, est-ce que je prends un chemin du paradis ou pas? Ça m'intéresse ou pas? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, a dit, celui qui prend un chemin vers une science, Allah Ta'ala, il lui ouvre un chemin vers le paradis. Et il y a des savants qui disent, c'est pas obligé, tu prends l'avion, tu prends le train, tu pars à la marche pour aller dans un institut en Égypte ou je ne sais où. Ça, c'est bien, c'est une ni'ma. Mais tu peux gagner cette récompense en écoutant les cours des savants, en t'inscrivant dans un institut, en apprenant la religion. Et la majorité des gens, ça ne les intéresse pas. Ou alors, avec un grand désolement, ça va l'intéresser 2 semaines, 1 mois. 2 semaines, 1 mois. Oh, j'ai plus envie qu'Allah y m'aime. Indirectement, c'est un... On ne se rend pas compte, hein. Je ne dis pas que les gens, directement, ils se disent ça dans leur tête, ce serait de la folie. Mais indirectement, réveille-toi, c'est ça que ça sous-entend. Oh, je quitte ce chemin du paradis, ça m'intéresse plus. Oh, j'ai pas envie de faire partie de ceux qu'Allah il aime. On se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Wallahi, moi j'aurais un étudiant à disposition, j'aurais un savant qui habite dans ma rue ou je sais pas. Mais normalement, les gens, ils te cassent ta porte. C'est façon de parler, casser la porte. C'est façon de parler. Je vais vous confier quelque chose. Vous savez, une fois, pour vous dire, hein, qu'on n'invente rien. Parce qu'il y a des gens, ils sont dotés d'intelligence et Allah, Ta'ala, il leur a donné. Donc nous, quand on a des commentaires comme ça à l'institut, les commentaires intelligents, les commentaires... Il n'y a pas de mal à diffuser, hein, que ce soit étudiante ou étudiant, il n'y a aucun interdit. Hein. Cheikh Al-Fawzan, il dit, tu peux même suivre les cours d'une femme si ce sont écrits. Hein, écrits, hein. Tu ne vas pas t'incruster chez une femme comme ça, l'écouter à longueur de journée, non. Mais les cours écrits, tu peux. Donc, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Une fois, on a eu un commentaire pour vous décrire cette situation d'un frère. Alors, faut comprendre le jargon, hein, parce que faut comprendre le jargon, le contexte. Hein. Qui a dit on devrait kidnapper le Oustaz pendant un cours. Hein. Il parlait de nous, il a dit on devrait kidnapper le Oustaz et le garder que pour nous. À peu près un commentaire dans ce sens. Alors, c'est vrai que c'est un commentaire fort, mais il faut comprendre le sens. Il faut aller au-delà du... Quand on a affaire à des commentaires ou des appréciations ou des choses comme ça, faut aller au-delà de certaines choses. Le plus important, c'est de comprendre le sens. Et ça, Allah Ibarak, c'est quelqu'un qui a compris. C'est un commentaire qui résume tout à fait. C'est Hadib, nous à notre époque, mais c'est Hadib. On attendait les ulama à leur porte. Wallah, une fois j'ai attendu Cheikh Abdelazak al-Badr devant sa voiture. Une fois avec des frères, on l'a accompagné de la fin du cours et on restait à côté de lui. On a traversé tout le Masjid al-Haram, on est descendu en bas avec l'escalator, on passe par les hammamets, les salles de bain. Ensuite, on rentre, c'est un parking, on l'accompagnait juste là. Et après, quand on a compris, regardez, quand on a compris que à chaque fois, il était entouré, c'était dur, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attendre devant sa voiture. Devant sa voiture. Subhanallah, c'est ça l'ilm. C'est ça l'ilm, subhanallah. Vous savez, des fois, pour avoir une réponse à une question, combien de mashayikh j'ai envoyé? Une fois, j'ai envoyé, je crois, 10 mashayikh différents. J'ai dit, faut qu'il y en ait un qui nous réponde. À l'époque où je travaillais avec d'autres groupes. Naam, lorsqu'on voulait solliciter des mashayikh pour qu'ils nous fassent des conférences, des choses comme ça. Et nous, on est là. C'est les instituts qui courent après les étudiants. Bon, nous, ce n'est pas le cas, par la grâce d'Allah. Vous avez bien vu, hein? Un petit rappel par-ci, par-là. On n'a pas fait une grosse com comme on aurait pu faire. Alhamdulillah, on se contente. Mais quand vous êtes dans une ni'ma, subhanallah, ne crachez pas dessus. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Parce que tu n'as pas été à la hauteur, Allah, il peut tout te retirer. Subhanallah, vous savez pas ça. Que tu peux te lever, on le souhaite à personne, tu peux te lever demain matin parce que tu n'étais pas sincère, parce que tu cherchais autre chose. Quand tu viens comme ça, devant les étudiants, devant les mashayikh, tu viens pour Allah. Tu viens, c'est pour Allah, tu dois avoir une bonne niyya. Ne te dis pas, oh, je vais venir, je vais rester une semaine, 2 semaines, je vais voir comment ça se passe, est-ce qu'on voit l'étudiant, j'ai envie de le voir, et tout ce qu'il y a, ces choses-là. Est-ce que ceci, est-ce que cela, viens pour la science, viens pour Allah, le reste, il va suivre. Il y a des choses qui se méritent. C'est comme ça. Wallah, il y a des choses qui se méritent. On est dans une religion de mérite. Je pense que vous l'avez compris. Même au paradis, il y a des degrés. Il y en a qui seront au plus bas degré, il y en a qui seront au plus haut degré, il y en a qui seront avec les prophètes. La foi dans cette dunya, il y en a, ils auront plus de foi que d'autres. Il y a des degrés. Et tout se mérite. Le paradis se mérite. La science, elle se mérite. Tout se mérite. C'est en fonction de... Comment toi, tu vas te comporter? Comment tu vas être dans ton cœur, etc. Wallahi, c'est important. Wallahi, que c'est important. Alors, je vous donne la recette, hein. Il n'y a pas 36 recettes. Je vous donne la recette. La recette, elle vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sois bien avec ton Seigneur. Sois proche de ton Seigneur. Rapproche-toi de ton Seigneur. Invoque ton Seigneur pour qu'il t'augmente en science, pour qu'il fasse de toi que tu sois sincère. Et tu verras, comme le dit Allah dans le Coran, wa man yattaqillah, celui qui craint Allah, Allah il lui ouvrira des portes et il le rétribuera de là où il ne s'y attend pas, subhanallah. Tu t'y attends même pas. Mais si tu viens comme ça, t'as un autre but qu'apprendre la science, être sincère, être niya, tu cherches quelque chose autre que la science. Tu vas même pas rester 2 semaines. Tu vas pas rester. Parce qu'Allah Ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Allah Ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, rien de péjoratif. On essaye juste de sensibiliser que au vu de cette sensibilisation, il faut bien comprendre, ensuite on va commencer notre cours, c'est que au vu de la valeur de ce qu'on vous transmet, si vous avez vraiment, et ça sera le jour de la résurrection, hein, ce qu'on appelle ilmu al-yaqin, c'est-à-dire plutôt ilmu al-yaqin. Ça sera le jour de la résurrection qu'on aura vraiment la certitude totale, totale de la valeur, à sa juste valeur, hein, de la science, des étudiants, des ulama en premier, d'abord les ulama, ensuite les étudiants. C'est le jour de la résurrection. Ici, on pourra avoir juste une petite. Mais moi, j'essaye de vous inculquer ça. Pourquoi? Parce que c'est d'une importance capitale que si tu as conscience de la valeur de la science, de la valeur de ce que tu es en train d'apprendre, wallahi, on ne demande pas que les gens courent après nous, hein. C'est pas du tout ça. Mais wallahi, vous allez courir après. Vous allez courir après. Parce que c'est la valeur sûre, la vraie valeur sûre au jour, aujourd'hui. À l'heure où tout le monde court, vous avez vu comment on court après l'or, comment on court après la nourriture, comment on court après l'argent, comment on court après toutes ces choses-là qui sont éphémères, qui ne sont même pas la vraie valeur sûre. Les ulama le disent, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Chez les anciens, on peut mentionner Ibn al-Qayyim, chez les nouveaux, on peut mentionner Abdelrazak al-Badr, chez les contemporains, qui disent que tu as plus besoin du tawhid, tu as plus besoin de la science, des sciences religieuses, de la lumière, de la révélation, que tu n'as besoin de manger et de boire. Allez vérifier, vous verrez. Alors ce don, et même de respirer, certains savants disent, tu as plus besoin du ilm que de respirer. Et nous, on est là, on ne sait pas ce qu'on veut. Oh, je sais pas. Ou alors, on prend ça comme un jeu, on s'engage pour 6 mois et on fait une semaine. Nous, on est étonnés, hein. Parce que nous, Inch'Allah, on espère avoir un petit peu la connaissance de la valeur de ce qu'on est en train de transmettre. Donc forcément, on est choqué. On est choqué. Normalement, les gens, ils se bousculent à ta porte. S'il te plaît, apprends-moi, apprends-nous. S'il te plaît, on est un groupe de frères, fais-nous des cours. On est une jamara où ça parle, ça parle, ça parle, mais il n'y a rien dans les actions, rien du tout. Il n'y a rien. On a passé presque 10 ans en Algérie. Il n'y avait que deux frères hein, sur toute une jamara, 50 couples, je sais plus combien dans une ville au bled. Il y avait que deux frères, deux frères Msakin qui venaient frapper chez nous pour prendre des cours. Angleterre, presque 5 ans, on va dire trois frères. Ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Faut dire la vérité, hein, c'est pas péjoratif. Ils n'ont pas tenu. On donne de notre temps, viens tous les matins si tu veux. Je te donne des cours de tawhid. Viens tous les matins. Il n'y a pas de souci. Tu peux venir tous les matins, la porte est ouverte. Ils n'ont pas tenu. Quel serait, vous seriez enseignant et vous auriez la valeur, vraiment la valeur de ce que vous enseignez. Vous connaîtriez à peu près la valeur parce que comme je vous ai dit, Wallahu a'lam, c'est le jour de la résurrection qu'on va connaître la valeur, qu'on va regretter. Enfin, on va regretter. Et je vous le dis, même moi, c'est sûr que je vais regretter de ne pas avoir donné plus de temps, comme les savants, 16 heures de mon temps tous les jours, jour et nuit, comme le dit Cheikh Al-Othaymine, vous avez vu hier dans le comportement. C'est sûr que même moi, je vais regretter. Mais vous auriez été à notre place, peut-être que vous auriez peut-être mieux compris. Là, on n'est pas dans les sciences de la dunya, là. Vous voyez les gens, comment ils se... Essayez d'assimiler comment les gens, ils mettent le paquet. Le paquet pour des sciences mondaines ou pour aller à l'école, l'université mondaine ou pour un travail. Il y en a, ils tueraient leur mère, excusez-moi de l'expression, mais c'est la vérité, hein. Ils tueraient leur mère pour un héritage, un travail, des choses de la vie mondaine. Il y en a, ils se font assassiner pour une cigarette. Un coup de couteau pour une cigarette. Alors. Et pour les sciences religieuses, on est. Pour la chose qui est la plus précieuse. Précieuse, subhanallah, c'est adib. Hein. La chose qui est la plus précieuse. On est à côté. Donc essayez de prendre ça en compte. Ça, c'est une petite. On essaye de vous sensibiliser. Pourquoi? Pour que vous arriviez à préserver ce que vous avez. Pour que vous arriviez, vous soyez conscient pour préserver ce que vous avez. Au-delà de tout ce qui est, je le répète, hein, au-delà de tout ce qui est dunyaoui, parce que moi je suis au-dessus, par la grâce d'Allah, je suis au-dessus de tout ce qui est de cette vie mondaine, l'argent et tout ce qui va avec. Naam. Et Allah le sait, lorsqu'on s'y accroche, c'est juste parce que c'est un besoin, mais. Nous, on ne vit pas pour la dunya. On ne vit pas pour la dunya. Naam. Taïb. Alors. Indirectement, cette petite exhortation, indirectement, ce petit conseil. Il est en rapport avec le fiqh. On vous l'a dit au début, hein, tout de suite pour vous mettre dans le contexte, comme quoi c'est une recommandation, certes, mais elle fait partie du fiqh. Naam, par rapport au verset qu'on vous a sorti sur le... plutôt au hadith qu'on vous a sorti sur le fiqh. Naam. Le terme firq est mentionné également dans le Coran. Naam. Taïb. Donc, dans nos cours précédents, on était entré dans le premier ouvrage, qui est un manuel enseigné à l'université de Médine. C'est bien de passer par ce manuel. Pourquoi? Comme on l'avait expliqué, avant d'entrer directement dans un livre de firq, un ouvrage où on va étudier directement le firq en question. Il est bien d'abord de maîtriser certains paramètres, d'étudier certaines questions religieuses qui sont parties intégrantes du firqa. Comme on avait déjà expliqué au préalable, c'est comme quelqu'un qui va commencer à faire du sport, il n'apprend pas certains mouvements, certains déplacements de base, certaines choses même qui sont théoriques, il entre directement sur le ring ou sur le tatami et il apprend sur le tas. On ne dit pas qu'il apprendra pas, ça sera toujours profitable. Ça fait partie d'une certaine école. On te met sur le tatami, sur le ring, et tu te débrouilles, tu vas apprendre. On connaît très bien cette technique, hein, pour y avoir goûté, mais il y a certains acquis que si on les aurait appris au préalable, ça aurait été plus bénéfique pour nous. Plus bénéfique. Voilà pourquoi on étudie ce manuel qui se nomme Madhal Lidirasatil Firq, l'entrée dans l'étude du Firq. Donc pour ceux qui veulent revenir, pour ceux qui viennent d'arriver ou autres, vous pouvez revenir au cours précédent qu'on a fait dans le Firq pour rattraper le début de cet ouvrage. On est toujours au tout début, hein, de notre ouvrage, ce qui signifie que s'il y a des gens qui veulent encore venir avant qu'on dépasse un certain niveau où on pourra plus accueillir des gens dans la classe, là c'est encore le moment. D'ailleurs, comme vous avez pu le constater, dans la classe des anciens, on ne peut plus accueillir, sauf cas exceptionnel, hein. Cas exceptionnel, mais on ne peut plus accueillir d'élèves parce que ça va faire un long moment et voilà. Mohim. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas dans votre classe, mais on arrivera à un moment où voilà. Non. Taïb. Donc concernant notre cours aujourd'hui, on va parler de l'évolution. Vous savez bien que chaque science religieuse a une période d'évolution. C'est pas comme ça, le fir qu'il est descendu, il y a eu l'imam Malik, il y a eu l'imam Ahmed, il y a eu l'imam Shafi'i, il y a eu l'imam Abu Hanifa, et ça y est, les livres ils sont descendus de fir également, voilà, toute une science, un package ou un pactage qui est descendu, le fir. Non, c'est pas comme ça. Il faut le savoir. Il y a ce qu'on appelle des périodes d'évolution. Alors, comme vous le savez, normalement, je ne sais pas si on l'a dit précédemment, il y a la première période, c'est pratiquement la période qui est commune à toutes les matières. Wallahu a'lam, qui est commune en général à toutes les matières, c'est la période de la révélation. Au moment où le Coran il descend, ça y est. T'as le tawhid qui descend, t'as le fiqh qui descend, t'as la spécialisation dans la langue arabe qui descend, tu as pratiquement toutes les matières, la croyance qui descend, il y en a plus, hein, les sciences du Coran qui descend. Ça, c'est lorsque le Coran il descend. Alors, une des raisons principale, une des raisons principales, retenez-la, on va le voir par la suite, hein. C'est prévu dans les cours, mais je vous fais gagner du temps. C'est parce qu'on dit en arabe al-masdar al-awwal ou al-masdar al-asli, c'est parce que la source principale concernant les matières, les sciences religieuses, la source principale, comme vous le savez, c'est le Coran. C'est le Coran. La source principale, c'est le Coran. Donc au moment où le Coran il descend, il est, dites-vous que les matières scientifiques, elles descendent. Taïb, alors, c'est pas absolu pour toutes les matières. Mais même si le Coran, dans certaines matières, il ne va pas être la source principale, il y aura des règles de certaines matières de ce genre de matières qui ne sont pas directement leur source n'est pas le Coran. On va donner un exemple. Il y aura quand même des règles, comme pour le hadith. Le hadith, on sait que la source principale pour la terminologie du hadith, les sciences du hadith, c'est la sunna. Mais il y a quand même des règles concernant la science du hadith qui sont présentes dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, inja'a fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous dit à peu près dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, lorsque se présente à vous un pervers, vérifier le sens, en gros, c'est vérifier. Ça veut dire qu'on ne doit pas prendre l'information de n'importe qui, n'importe comment. Et ça, c'est une règle dans les sciences du hadith. C'est une règle dans les sciences du hadith. On ne prend pas le hadith de n'importe qui, on vérifie. Il y a des dossiers pour chaque rapporteur. Vous voyez? Donc ça, c'est une des règles dans le hadith qui est dans le Coran. Mais sinon, concernant le hadith, la source, c'est la sunna du prophète. Sinon, pour les autres matières, en général, le premier masdar, masdar, c'est la source. Le premier masdar, c'est le Coran. Le premier masdar, c'est le Coran. Effectivement, effectivement, alors là, ça tombe bien. Et normalement, à moins... Wafik barakallah, Cheikh Abou Youssouf. Wafik barakallah, hayakallah. À moins que vous le sachiez déjà, ça aurait été une bonne question, une très très bonne question de poser la question. Mais alors pour notre matière ici, pour le fiqh, quels sont ou quel est, quels sont al-masadir, les sources pour le fiqh? Alors c'est pas trop tard, ben on va vous poser la question. On va vous poser la question. À votre avis, d'où est tirée la science du fiqh concernant les sources? Du Coran tout seul, de la Sunna toute seule, du Coran et de la Sunna, à votre avis? Alors, on a des réponses chez nos étudiants. Alors, des hadiths, mais avec les règles du Coran. Mashallah. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Il manque un tout petit truc, mais sinon, c'est une bonne réponse. C'est très bien. Alors, les étudiants. Il y a beaucoup de réponses. Salam alaikum. Coran. Bilal, il nous dit Coran, Sunna, analogie, consensus. Mashallah, Bilal. Très bonne réponse. Alors déjà, il faut savoir que les deux, on vous laisse répondre hein, avant de donner la réponse, mais les deux réponses de nos étudiants, elles sont très très bien. Alors, il faut savoir déjà que concernant le fiqh, les deux sources principales, c'est le Coran et la Sunna. Dans le Coran, il y a le fiqh. Dans la Sunna, il y a le détail du fiqh. Taïb. Taïb. Donc, on va continuer. Taïb, on va continuer. Donc voilà, à savoir, on était en train de dire, concernant les périodes d'évolution de cette matière qui est le fiqh, la première période du fiqh, c'est lorsque le Coran est descendu. Quand le Coran il est descendu, il y a le fiqh en général qui descend, c'est-à-dire le fiqh au sens général qui comprend la croyance, le tawhid, et le fiqh qui est le fiqh des adorations. Le fiqh des adorations. Donc ça c'est la première période, celle qu'il faut surtout retenir, Si on vous dit, on vous pose la question, quelle est la première période d'évolution du firq, c'est-à-dire la première apparition du firq. Vous n'allez pas dire à l'époque de l'imam Malik, à l'époque de l'imam Ahmed, vous n'allez pas dire à l'époque de Cheikh Al-Albani, non, vous allez dire à l'époque du Coran. Le firq, il est descendu, pardon, en premier, avec le Coran. Taïb. Alors, je vais noter ça, je viens d'avoir une... Subhanallah. Je viens d'avoir tout ce qu'on a dit au début dans l'introduction en une phrase. Si tu ne sais pas ce qui est bien pour toi, qui va le savoir? En une phrase. Ça, c'est en une phrase. Taïm. Je note avant d'oublier. Ah, ouais. Donc, on nous dit Nasha, Nasha ul firq, Nasha ma'a nashat ul islam. Donc, on nous dit le firq, il est né avec la naissance de l'islam. Parce que l'islam est un regroupement. Écoutez bien, parce que l'islam est un regroupement de croyances, de comportements et de jugements et d'œuvres. Et d'œuvres. Ces jugements dans les œuvres étaient présents à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Coran est arrivé et descendu. Vous savez, nous aujourd'hui, on a des règles de fiqh. On a des livres de fiqh, on a des règles de usul fiqh, etc. On a tout ça. C'est parce que nous, à notre époque, on a besoin de tout ça tellement on est tellement le niveau il est faible. Oui, le comportement des gens de Médine, on va y venir à la suite, Cheikh Bilal, t'inquiète pas, c'est prévu. Mais il y a une divergence sur ça, sur le comportement des gens de Médine. C'est pour ça que ça va venir à la suite dans un chapitre. Il y a une divergence sur ça. Ça va être selon le madhhab que tu vas étudier, hein. Les comportements des gens de Médine, la position des gens de Médine, ça va être selon le madhhab que tu vas étudier. Si je me souviens bien, Allahu a'lam, hein. Allahu a'lam, si je me souviens bien, c'est l'imam Malik qui prend comme référence les gens de Médine, Ahlul Médine. Taïb, on verra ça à la suite. On en était où? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qu'est-ce qu'on disait? Voilà. Les différentes matières que nous, on étudie aujourd'hui. Même si vous voulez la langue arabe, hein. Sous forme de livres, sous forme de cours, sous forme de différentes sciences, matières, l'éloquence dans la langue arabe, le sarf, la constitution des mots, la grammaire, etc. Dites-vous bien une chose, c'est que lors de la première période d'évolution, la période du prophète et des compagnons, il n'y avait pas ça. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient juste le Coran et la Sunna, ils avaient donc toutes les matières. Ils les maîtrisaient juste à leur disposition, le Coran et la Sunna. Par la suite, pour faciliter, pour également préserver les différentes matières et la religion, là, les savants ont fait des ouvrages, des règles. Chaque science a eu sont est devenue une science indépendante avec des ouvrages indépendants, avec des savants spécialisés. Ça, c'est pour nous. C'est une facilité. Alhamdulillah. Et par la suite, à la suite des trois meilleures époques, comme l'a dit le prophète, Les trois meilleures époques sont mon époque, celle qui suit et celle qui suit. Khayru nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les trois meilleures époques. C'est-à-dire qu'à ces époques-là, il n'y avait pas encore bien propagé les innovations, les ennemis de l'islam qui veulent changer la religion. Alors comme ils ont voulu changer la religion dans différentes matières, le tawhid, la croyance, même dans le hadith, à fond, hein, ils se sont mis à fond pour changer la sunna du prophète. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte, pour préserver, qu'il y ait des règles, à travers les savants, hein, des règles, différentes matières, différents ouvrages. Parce que, après les trois meilleures époques, ça a commencé à être dangereux. Donc il a fallu établir des règles de protection, etc. D'accord? Mais à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, dites-vous bien, même les compagnons, même la grammaire, il n'y avait pas de règles. Tout ça, c'était ancré chez eux. C'était eux les, si vous préférez, c'était eux les, le prophète, les compagnons, c'était eux les ouvrages. Ils étaient des ouvrages, excusez-moi du terme, hein, des ouvrages ambulants, des savants. Ils étaient des savants. À partir du Coran et de la Sunna, ils avaient déjà tout maîtrisé. Le tafsir Coran, ils avaient le plus savant de l'humanité, le prophète, aïssat wa salam, qui leur enseignait. Donc voilà, c'était comment dirais-je, c'était inculqué chez eux, inculqué, sans avoir d'ouvrage, sans à part le Coran, sans avoir de tout cela, tout ce qu'on a nous aujourd'hui. Alors ce qu'il faut retenir, le plus important, pourquoi? Pourquoi? Ben parce que eux, ils avaient la source principale de toutes les La source principale. Donc, ils ont maîtrisé la source principale. Ils n'avaient pas besoin que on vienne t'apprendre l'arabe, on vienne Ils n'avaient pas besoin de tout ça. Nous, aujourd'hui, par rapport à notre niveau, on a besoin de tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'à travers les âges, de plus en plus, les sciences religieuses. Donc là, notamment, on parle du fiqh, hein. On parle du fiqh, on est dans un cours de fiqh. Mais en général, c'est comme ça que, à travers les âges, les sciences religieuses, elles se sont élargies, étendues, de plus en plus. Quand vous allez étudier, et c'est le cas ici pour le fiqh, dans les cours qui vont venir, plus vous allez étudier, plus on va vous détailler les périodes d'évolution. Alors, de quelle manière? Quelle est la méthode? On va vous citer, par exemple, on va vous citer quel est le premier qui s'est fait, le premier savant qui est apparu dans les sciences du fiqh, par exemple, dans les sciences de usul fiqh, telle matière, qui a fait le premier ouvrage. Quels sont les ouvrages de base, les ouvrages les plus connus, comme ici, hein, par exemple, dans le fiqh ici. Notre parole suivante, on nous dit Abraz al-muallifat fi tariq al-fiqh. Quels sont les ouvrages les plus connus dans le fiqh? Les plus connus. Les ouvrages de base, quel est le premier ouvrage qui est apparu, les plus bénéfiques pour apprendre. Ensuite, les différentes périodes d'évolution. Comme on vous a dit, ça ne s'arrête pas à une seule période d'évolution. Ça ne s'arrête pas à une seule période d'évolution. Vous savez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 23 ans, il a appelé au tawhid. Donc on ne peut pas dire que il y a une seule période d'évolution, même si on sait qu'il s'est consacré uniquement au tawhid pendant les 10 premières années, mais pendant les 23 années de son, si on peut appeler ça comme ça, son mandat, son envoi, son message, du début à la fin, il a appelé au tawhid. Taïb? Donc voilà, je vous ai fait un petit résumé condensé pour vous transmettre en un petit résumé, un petit cours comme ça, pour que vous ayez une image déjà en général de l'évolution des différentes matières et en particulier de la première évolution concernant le fiqh. Taïb, si vous avez compris ces deux choses, vous avez compris le cours d'aujourd'hui. Première évolution, le fiqh, première période d'évolution, le fiqh, il est descendu quand le Coran il est descendu. Voilà. Tu as compris ça, tu as compris tout le cours. Après, on a donné de la faïda en plus. C'est pareil pour les différentes matières. Que lorsque le Coran il est descendu, bah, ça a donné vie à toutes les autres matières. Naham. Ensuite, on nous dit que pour le fiqh, il y a différents ouvrages en arabe, les plus connus. On ne va pas vous les citer ici parce que ça, c'est pour des arabophones confirmés. Confirmés. Ce sont que des livres vraiment. En plus, ce sont des anciens pour la plupart, pas les contemporains. Mais voilà, pour vous dire que dès le début, au niveau universitaire, on leur donne déjà des ouvrages de référence pour qu'ils aient une idée. Pour qu'ils aient une idée. Taïb. Alors, je vais quand même chercher dans la liste s'il y en a quelques-uns qui sont très, très, très connus. Comme ça, on vous donnera quand même un ou deux ouvrages. Alors, je vais lire la liste. Et ensuite, on passera aux questions. Il y a des frères qui posent des questions, hein. Des étudiants qui ont posé des questions. On va voir ce qu'il y a, hein, comme question. Alors déjà, le premier, c'est un ouvrage équivalent de ce qu'on est en train de faire, nous, pour vous dire, hein, qui est une référence. Al-Madkhal al-Fiqhi al-Am li Zarqa. Donc ça, c'est une entrée dans la matière du fiqh. C'est comme ce qu'on est en train de faire. On en a un autre, c'est Al-Madkhal fi al-Fiqh. C'est la même chose. Al-Madkhal li Dirasat al-Sharia. C'est la même chose. Al-Madkhal fi al-Sharia ou al-Fiqh. C'est la même chose. Alors en fait, si vous préférez, je vais rectifier. J'avais pas fait attention. Ce n'est pas des ouvrages dans le fiqh en général. Ça, on va les citer après. J'ai confondu. Là, les titres d'ouvrages qu'on nous donne, c'est les ouvrages les plus connus dans l'entrée dans la science du fiqh. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire nous. Il n'y a pas que notre manuel à nous qu'on est en train de faire, qui est enseigné à l'université de Médine. Il y a d'autres ouvrages qui sont des références dans l'entrée, c'est-à-dire avant d'entrer dans le fiqh, d'étudier Amdat al-Ahkam, Bulugh al-Maram, Zad al-Mustaqni, al-Mughni, tout ce que vous voulez. Hein. Amdat al-Fiqh, ça sont des livres dans le fiqh. Avant d'étudier ces livres, il y a des manuels, des livres, des ouvrages à étudier pour faire des cours comme nous on est en train de faire ici. Alors, voilà, ce sont des titres. Hein, on a dans le Madhab Shafi'i, on a chez l'imam Ahmed, vous pouvez constater que la plupart des quatre imams, ils ont fait des ouvrages dans cette matière. Ça veut dire quoi? C'est pas pour rien. Ça veut dire que normalement, si tu veux un bon enseignement qui commence par le début, faut passer par l'entrée avant d'entrer directement dans un livre de fiqh. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'entrer directement dans un livre de fiqh, mais c'est mieux si tu passes par ce qu'on est en train de faire nous. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, la plupart, c'est dans les madahib, les quatre écoles. Hein. Sauf qu'on a Zil al-Tabaqat, al-Hanabila, l'Il-Hafidh ibn Rajab, un de nos grands, 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 grands savants du madhab de l'imam Ahmed, qui s'appelle Ibn Rajab. Ibn Rajab, un de nos grands, grands, grands savants de la Sunna, qui a fait justement un livre sur ça également. Donc voilà. Il y a l'imam al-Nawawi également. Tahrir al-Arfaz, al-Tanbih, l'imam al-Nawawi. Imam Nawawi, qui est une référence également. Donc voilà. Naham. Donc, Inch'Allah, au Ta'ala, pour aujourd'hui, on va se contenter de cela. Dans le prochain cours, on va parler d'un autre sujet. On va parler des spécificités du fiqh, de la jurisprudence islamique, ses particularités. On va parler de ses particularités. Alors, ça sera bien également pour motiver les élèves à savoir quels sont les points forts, quels sont les points importants, les particularités concernant le fiqh. Pourquoi j'étudie le fiqh? Quels sont. Voilà, il faut savoir. C'est important. Bien qu'on l'ait déjà fait en début, au tout début, hein, pour motiver les élèves, pour qu'ils sachent en eux-mêmes, voilà pourquoi j'étudie le fiqh. Hein. Ça va t'aider à adorer Allah. Écoutez bien. Dans un premier temps, ça va t'aider à adorer Allah comme Allah le veut. Et dans un deuxième temps, ça va t'aider à te rapprocher d'Allah spirituellement. Donc on voit que ce sont deux points vraiment très importants. Très importants. Alors on va conclure parce que j'ai noté, je vais chercher, Inch'Allah, s'il y a des textes sur ça. Parce que c'est toujours mieux de mentionner Imam Ibn al-Qayyim, Ibn al-Rajab, l'Imam Malik a dit ou quoi. Mais s'il n'y a pas, c'est pas grave, parce que ça sera en concordance avec les textes du Kitab et wa Sunna, les textes. Mais pour terminer, on terminera par là où on a commencé ce cours. Si tu ne sais pas ce qui est bien pour toi, qui va le savoir? Pour toi. Ça résume tout ce qu'on a dit au tout début. C'est-à-dire, si tu ne sais pas que la science, l'apprentissage de la science est un bien pour toi, qui va le savoir pour toi? Qui va faire les efforts pour toi? Personne. Alors. Il y a aussi le comportement des gens de Médine, ça on a répondu, Cheikh Bilal. Deux sources originelles, le Coran, la Sunna, est-ce que deux sources dérivées, la déduction analogique et le consensus des savants Ijma? Ahsante, Cheikh Sadio. C'est spécifique au Madame Malikit. Wafik Barakallah, Cheikh Bilal. C'est ce que je me souviens, il faut que je revérifie. À la Kulihal, on va le faire. On va le faire, on va, dans notre manuel ici, on va passer par les quatre imams à un certain moment. On va passer par les quatre imams et là on dira leur spécificité aux quatre imams. Et de ce que je me souviens, il me semble que la référence de se fier comme dalil aux gens de Médine, il me semble que c'est l'imam Malik ou Allahu A'lam. Il me semble que c'est l'imam Malik. On a une autre question alors. On a une autre question. Je vais y venir pour notre étudiante. Je vais y venir, Inch'Allah. Du coup, Oustaz, il n'y a pas les mêmes preuves selon les différents madhhabs, à part le Coran et la Sunna et le Ijma. Oui, c'est bien, tu as compris, Cheikh Bilal. Mashallah, ceci est une preuve, Allah ibarak, tabarakallah, que tu as du idrak. L'idrak, on appelle ça de la perception. Effectivement, Cheikh Bilal. D'un savant à un autre, ils n'ont pas les mêmes preuves comme référence. Alors, je vais te faire gagner du temps, mais ça, c'est dans un chapitre hein, qu'on va voir à la suite. Je vais te faire gagner du temps. Il y a les preuves référentielles qu'on appelle d'un savant à un autre, qu'on appelle les preuves sur lesquelles il y a le consensus. Par exemple, il y a le Coran, la Sunna, l'unanimité. Et l'analogie, ça, c'est des preuves sur lesquelles tous les savants ils sont d'accord. Ils sont unanimes. Ils se rejoignent tous. Mais après, il y a d'autres preuves. On les verra parce que c'est un peu technique, hein. Il faut que vous ayez un peu de fiqh d'abord. Il y a d'autres preuves où il n'y a pas l'unanimité. Il y a des divergences. Il y a des savants qui les prennent. Il y a des savants qui ne les prennent pas. Et parmi ces preuves, il y a les gens de Médine. Du coup, Oustaz, il n'y a pas les mêmes preuves, sont différents. Oui, effectivement, Cheikh Bilal. Alors, une question ici. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, si j'ai bien compris, première période d'apparition du fiqh à l'époque du prophète. Effectivement, c'est ça. En même temps que le Coran. Effectivement, c'est ça. À cette époque, la référence était le Coran, la Sunna. Seulement car le prophète était présent et les compagnons, tout à fait, maîtrisaient mieux les règles que nous aujourd'hui, tout à fait. Ils n'avaient pas besoin de livres, de règles prédéfinies par les savants, etc. Puis par la suite, avec les générations, les savants ont fait des ouvrages pour préserver ces règles, les expliquer pour ceux qui ne connaissent pas et pour préserver la religion de toute innovation qui sont apparues. Effectivement, c'est tout à fait ça. Après les trois meilleures générations. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Votre petit résumé, il peut servir de référence pour ceux qui veulent une petite retranscription. Ici, on a une retranscription. Hein. Voilà, pour ceux qui n'ont pas bien compris ou pour ceux qui veulent quelque chose d'écrit, si notre étudiante, elle nous le permet, vous pouvez prendre sa petite retranscription ici et en faire une base. Alors, j'ai complètement oublié, je demande mes excuses à. On a un étudiant, Cher Bilel, qui m'a communiqué ses notes pour les faire partager. Il a retranscrit tout depuis le début dans votre classe. Et je m'excuse, j'ai tellement de choses que j'ai oubliées. J'ai oublié. Et je vais regarder ça. Donc là, de 11 à 12, j'ai un planning, hein, vous savez. De 11 à 12, je ne pourrai pas. Mais dès que possible, je vais regarder ça. Et ensuite, on transmettra à tous les étudiants pour ceux qui veulent des notes. Hein, voilà, il y a un frère qui retranscrit toutes les notes, dans votre classe. Eh bien, alhamdoulilah, on a l'autorisation de notre étudiante. Pour celles ou ceux qui veulent prendre les notes de notre étudiante, vous pouvez. C'est un bon petit résumé. C'est un bon petit résumé. Naam. Alors, quoi d'autre? Fik barakallah, Cheikh Bilal. Wafik barakallah. Wafik barakallah. Taïb. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah ta'ala. Surtout, 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 je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais on a déjà fait des rappels sur le shaitan. Hein. On en a fait beaucoup dans la classe des anciens étudiants parce qu'ils sont plus anciens, donc c'est normal. Mais surtout si on n'a pas fait beaucoup, beaucoup chez vous pose ta question, Cheikh Sadio, il n'y a pas de souci, de rappel, malgré qu'on en a fait quand même. Hein. Soyez vigilants. Ce que je vous demanderai dans un premier temps, on a déjà parlé de ça, mais la première chose sur laquelle sûrement le shaitan, s'il n'arrive pas à entrer par certaines portes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de rabaisser à vos yeux l'enseignant, comme ça vous allez dire, oh, laisse tomber, regarde, il parle comme ça, il est comme ça, faites attention à ça. Donc nous, pour casser cette ambiguïté, on vous dit tout de suite qu'on n'est pas parfait, on peut se tromper des fois. Également, on peut avoir certaines fois un ton ou une approche qui n'est pas forcément plaisante. En tout cas, sachez que ce n'est pas volontaire. Et comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen, si tu veux gagner, si tu veux réussir dans l'étude de la science, patiente. Patiente même sur ton enseignant, qui des fois peut avoir des manquements, tu ne sais pas ce qui s'est passé. On ne sait jamais. Un jour, il peut être malade, il peut être fatigué, il a vécu une situation très difficile et c'est tombé sur toi ce jour-là. Donc voilà, c'est pas le cas. Hein. En ce moment, c'est pas le cas, mais on vous prévient, il faut patienter. Ça fait partie de la patience. Celui qui veut réussir, qui va réussir, c'est celui qui patiente. Celui qui aura patienté jusqu'au bout, en fin de course, en bout de course, il sera très content, il sera très satisfait de lui-même. Il sera très satisfait de lui-même. C'est une autosatisfaction que d'avoir patienté jusqu'au bout des choses. Naram. Ne serait-ce que quand on termine un ouvrage, on est satisfait. Et ceux qui n'ont pas terminé, qui ont quitté l'ouvrage ou autre, Wallahul Musta'an. Wallahul Musta'an. Cheikh Sadio, quels sont les livres à avoir pour maîtriser la langue arabe parfaitement? Il n'y a pas de livre particulier. Il n'y a pas de livre particulier, c'est un effort personnel. Même si on te donne des cours d'arabe, même si tu prends des cours d'arabe, ce qui va faire toute la différence par l'autorisation d'Allah, c'est l'effort personnel. La langue arabe, c'est une des matières où même si tu prends des cours, si tu ne fais pas d'effort personnel, ça ne va pas venir tout seul. Faut prendre des cours d'arabe. Pour les non-arabophones, dans un premier temps, il faut faire les koutoub de Médine. Ensuite, il y a des livres entre les Koutoubs de Médine et l'Ajurumiyya. Il y a d'autres ouvrages comme Nahul Wadi' ou d'autres ouvrages qui sont connus, intermédiaires, entre les Koutoubs de Médine et l'Ajurumiyya. Mais il faut savoir que malgré tous ces cours-là d'arabe, c'est encore mieux si c'est intensif, apprendre du vocabulaire tous les jours, mais si tu ne cherches pas à pratiquer et à parler, tu ne seras jamais arabophone. C'est-à-dire tout seul, toi, il faut lire l'arabe, il faut apprendre des mots, chercher dans le dictionnaire, avoir un petit carnet. Si tu fais pas ça, wallahu a'lam, à moins d'un miracle que tu te lèves arabophone demain matin, tu ne seras jamais arabophone. Faut lire, faut parler. Il faut que tu dises aux gens, je ne parle plus en français, je parle que en arabe. Excusez-moi, j'ai envie d'apprendre l'arabe. Tu marches que avec des gens qui parlent l'arabe et là, tu vas devenir arabophone. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Non. Mais dans un premier temps, pour des gens qui ne sont pas arabophones, il faut étudier les koutoubs de Médine. Mais attention, faut les, c'est pas les étudier, j'ai fait le 1, le 2. Non, faut les étudier à la manière intensif, avec tout ce qu'ils contiennent, de A à Z. Et là, tu vas commencer à... C'est pour ça que les gens qui vont à l'université de Médine, ils font d'abord, je crois que c'est 2 ans d'arabe, les koutoubs de Médine de A à Z, et ils ressortent arabophones. Pour la plupart. Naam. Donc voilà. Wallahu a'lam wa subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.